cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 12 juin de l'an 2001 à Saint-Jeudard.
Je vous avais parlé la dernière fois donc sur l'un, et je vous avais montré cette difficulté spéciale qu'on a en face de l'un, parce que on a l'un propriété de l'être, et tous les exemples, les expériences que nous avons de l'un au point de vue artistique, au point de vue de notre conscience morale, de notre amitié, montre bien que l'un est coextensible avec l'être. La division qui amène le multiple, la division ne peut avoir lieu que dans l'être en puissance. Ça, c'est très important, puisque ça joue énormément dans la pensée moderne, la différence, la division. Et comme, au fond, on confond la distinction et la séparation, on confond la différence et la division dans la dialectique. La dualité, la dialectique d'opposition. Et c'est l'être en acte qui a comme propriété l'unité. Vous l'avez dans l'expérience artistique très nettement. La réalité artistique, si elle n'est pas achevée, est divisible. Il n'y a pas assez d'unité. Et on y ressort. Et on le sent très bien. Aussi bien dans l'art pictural que dans l'art, c'est peut-être au point de vue musique où c'est le plus difficile à le voir, mais il y a quand même une harmonie, et quand on va trop loin, l'harmonie se détruit, vous voyez, et c'est là l'œuvre géniale, c'est qu'il va très loin dans la diversité, mais pas trop. Et celui qui copie ou qui n'a pas le génie tombe fatalement, il veut aller très loin dans la diversité et va trop loin. Pensez à toutes les expériences que vous pouvez avoir au point de vue artistique ou au point de vue même moral. On peut tendre la... Il faut quelquefois tendre l'arc. Oui, on tend l'arc pour que la flèche parte bien. Mais si on le tend trop, ça se brise. Alors, il y a un moment qui est très délicat et que l'homme qui a du génie la sent et l'homme qui n'a pas de génie le sent pas. Et ceci... au point de vue psychologique, au point de vue humain, dans notre affectivité, on le sent très bien, jusqu'où peut-on tendre la corde vis-à-vis de l'ami? Et si on va trop loin, on le brise. On fait un pas malheureux et qui est quelquefois est irréparable. Irréparable psychologiquement. C'est toujours réparable divinement. mais psychologiquement, donc humainement. Il y a des cas de séparation, des cas de division où c'est absolument irréparable. On ne peut pas revenir en arrière. La corde est brisée. Et tous ces exemples-là qui nous font toucher très nettement ce que c'est que l'unité dans l'œuvre d'art, l'unité au point de vue amitié, au point de vue prudence, prudence politique, le moment précis où la tension qu'on cherche est très belle, mais attention d'aller trop loin, parce qu'alors ça se brise. Et puis l'un au point de vue de l'universel. L'universel, saint Thomas donne cette très bonne définition qu'il ne faut jamais oublier. Unum ex multis, unum in multa, unum ad multa. Là vous avez unum ex a in ad, ou ad in. C'est très joli de voir la relation de l'un, de l'universel, vers le multiple. Et cette relation de l'un vers le multiple est ce que mon intelligence fait. Aristote ne dit pas d'une façon aussi nette que saint Thomas, mais c'est dans Aristote, le multiple sort de beaucoup d'expériences ex multis. Pour arriver à saisir ce que c'est que l'homme, il faut voir la différence entre papa et un autre homme. Puis après un autre, puis après un autre, et petit à petit, on saisit l'homme. Pour saisir ce que représente une table, il faut voir des tables de nombreux styles différents. Donc, ex multis. Ad multa, parce que l'un est attribué, l'universel est attribué à beaucoup. L'homme est attribué à Pierre, Jacques, Jean. Il est ad multa. Et in multa, parce qu'il est la réalité interne. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas tellement l'universel en lui-même, mais c'est de voir que l'universel, c'est le fruit de mon intelligence. Votre intelligence produit l'universel. C'est pour ça qu'il nous est si cher. Il nous coûte beaucoup d'efforts avant d'arriver à l'universel. La logique naît à partir de l'universel. La science naît à partir de l'universel. Donc c'est capital de bien saisir ce que c'est que l'universel. Et ici, c'est capital, parce que c'est l'un de raison. C'est l'un que je peux fabriquer. Je suis auteur de l'universel. Je ne peux pas créer des êtres réels, existants, mais je peux créer l'universel. Et alors, c'est au fond, ça peut devenir une terrible tentation. C'est la tentation moderne. Si on veut la voir vraiment, c'est la tentation moderne. C'est de considérer que seul l'aspect scientifique est important. Seule la loi est importante. La loi, c'est un universel. c'est l'imperium universalisé pour tout un groupe, en fait, une loi. Et il y a une séduction très très particulière à l'égard de l'universel. C'est la séduction de la logique. Il est bon de le sentir, mais il ne faut pas tomber dedans. Hein. Il est bon de le sentir. Sentir qu'en effet, l'universel me sécurise. La loi me sécurise. L'homme a besoin de la loi. Abraham n'avait pas de loi, Moïse a pris la loi. Oui. Passage entre les deux. Abraham, c'est la famille, Moïse, c'est le pays, c'est l'État. Bon. Et pour Platon, la morale de l'État est source de la morale des individus. Pour Aristote, la morale des individus est source de celle de l'État. Vous voyez, le jeu, la différence entre l'éthique personnelle et l'éthique politique vient autour de l'universel. C'est une fois qu'on est un peu éveillé à ça, on voit combien l'homme est séduit par l'universel. Et pourquoi l'homme est séduit par l'universel? Parce que ça vient de lui. Toujours. Hein. Un projet qui vient de nous, ah, nous le soignons très bien. Quelque chose qui vient de nous comme le fruit de notre pensée, c'est parfait. Et cela nous montre la séduction de l'un. On est séduit par l'un. Et la différence entre l'un, propriété de l'être, et l'universel est capitale à saisir. L'universel est vraiment un. Il est un même dans une pureté unique. Et c'est pour ça qu'il séduit. Il est purement formel. Et puis, il vient purement de l'esprit. C'est l'esprit qui se manifeste d'abord par l'universel. Vous manifestez votre intelligence en donnant des définitions. Celui qui donne tout le temps des définitions, on dit, mais écoute, on sait bien que tu es intelligent, n'insiste pas trop. C'est tout le temps des définitions. Alors c'est très utile la définition. C'est très utile. Quelquefois il faut l'exiger. Donnez-moi la définition de cela. Mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas que l'universel devienne la loi de l'intelligence. Vous ne pouvez pas dépasser l'universel. Alors tout de suite, le philosophe dira, mais attention, il y a deux univers. Il y a l'universel univoque et l'universel analogique. Alors, en prenant l'universel analogique, vous sauvez l'universel. Parce que l'universel analogique est lié au singulier. Il respecte la diversité. L'universel logique fait l'unité. Mais une unité univoque. Il n'y a qu'un système, un système univoque. Si vous êtes dans l'analogie, ah, vous ne pouvez pas dire un seul système, parce que tout de suite, l'être se donne dans la diversité. Et donc l'un se donne dans la diversité. Vous voyez ? Alors, il faut bien comprendre ça. Alors il faut, si je distinguer l'un propriété de l'être, l'un universel univoque, l'un universel analogique. Vous avez donc trois expériences de l'un. Et ces trois expériences de l'un, vous devez pouvoir les saisir bien. Autrement, vous faites un amalgame. Et constamment, on fait ça. Les petites intelligences font des amalgames. Et croient tout comprendre. Ils n'ont rien compris. Parce que avec l'amalgame, on ne comprend pas. Il faut analyser. Parlez-vous de l'un, propriété de l'être? Parlez-vous de l'un univoque? L'un univoque est très utile. Il aboutit à la définition. Et puis l'un analogique, qui aboutit à saisir les raisons. La rationness des raisons. L'intelligibilité analogique. Laissons de côté l'un universel, l'un analogique. L'un universel s'étudie en logique, l'un analogique s'étudie en critique. Puisque l'un analogique, la logique ne joue plus. Vous ne pouvez pas définir l'être, vous ne pouvez pas définir Dieu. Vous ne pouvez pas définir ce que vous êtes quand vous dites « je suis ». Et quelqu'un dit « oh, je te connais, je pourrais te définir parfaitement ». Quand on vous dit ça, vous riez au nez de la personne. Non. Tu crois connaître, oui, tu connais en moi ce qui est commun. Mais ce qui est important, c'est de connaître en moi ce qui est personnel. Et qu'à vous-même réfléchir, tout ce qui est en vous, qui peut être défini, tout ce qui est en vous qui ne peut pas être défini, et votre unité. Alors, revenons, et c'est très utile de voir ça, parce que ça fait comprendre comment l'un, la séduction de l'un, est source de l'idéalisme. L'idéalisme provient toujours d'une séduction de l'un. On se laisse emporter. Parce que là, je peux le produire. Tandis que l'être, vous ne pouvez pas le produire. Et donc, vous l'aimez particulièrement parce que c'est le fruit de votre pensée. Et vous pouvez, à partir de là, construire tout un système. Vous savez, quand vous avez un projet, c'est un, artistiquement, que vous avez en tête, vous avez une idée qui est une et qui gouverne. Vous voyez, quand vous saisissez un principe, vous saisissez quelque chose d'indivisible, alors, le principe, c'est l'universel analogique. Parce que vous voyez tout de suite que le principe, il est bien dans votre intelligence, mais il est toujours dépendant de la réalité. Et le principe, il est dans la réalité. Mon âme est principe de ma vie. Mon âme est quelque chose de réel. Et mon âme, en même temps, me permet de saisir un principe. En tant que principe, il est dans mon intelligence. Donc, il y a là, je dirais, quelque chose de très important pour saisir l'idéalisme, pour saisir le vécu, et l'autre au contraire, l'un principe de l'être, saisir le réel. Le réel en tant qu'il existe est un. Alors, qu'est-ce que c'est que l'un, propriété de l'être? Qu'est-ce qu'il exprime? Qu'est-ce que je veux exprimer quand je dis « je suis un » ? Je suis un être singulier qui a son unité. Et en voyant l'autre, l'ami, il est un et il a son unité, distincte de la mienne. Votre unité est propre à moi. Et mon voisin, il a son unité qui est propre à lui. Vous voyez, nous sommes en face de propriété. Et la propriété, c'est justement ce qui est propre à moi. C'est ça ma propriété. Et qui est propre à l'autre. Et il peut y avoir un conflit. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que je suis un ? Je suis un dans la mesure où je ne suis pas divisible. Ah. C'est pas étonnant, étant donné que le multiple est plus proche de ma connaissance sensible que l'universel. J'ai toujours l'impression, quand je passe des réalités sensibles, concrètes, à l'universel, que je m'appauvris. Et c'est vrai, je m'appauvris. Quand je passe de papa à homme, je m'appauvris terriblement. Papa, c'est l'homme le plus parfait. J'ai jamais vu un homme aussi parfait que papa. Le gosse. Le jour où il commence à relativiser son père, oh, j'ai rencontré quelqu'un de bien plus parfait que mon père. Mais alors il commence à comprendre que homme est supérieur à papa, puisqu'il peut y avoir quelqu'un de plus parfait. Alors, je comprends que l'universel appauvrit et enrichit, puisque pour l'universel, je ne garde que ce qui est essentiel, et je laisse tomber tous les accidents. Quand je regarde le singulier, les accidents me semble quelque chose de très très important, puisque le singulier, il est fait d'accidents, de choses particulières, de choses spéciales. Il a une moustache particulière, il a une barbe particulière. L'individu est changé quand la barbe pousse. Tout de suite, il faut une nouvelle photographie, une carte d'identité nouvelle. C'est pas étonnant, la carte d'identité. Et c'est, non pas de saisir la substance, mais l'ensemble des accidents. Vous avez des yeux bleus, vous avez des yeux foncés, vous avez un nez particulier, et c'est l'ensemble de ces qualités spéciales qui vous font l'individu, votre identité. Vous avez assemblé ça, mais vous ne connaissez absolument pas l'individu par la carte d'identité. Vous pouvez reconnaître le criminel. C'est le seul avantage. Par là, vous reconnaissez. Mais le criminel sait très bien qu'il faut prendre une perruque, qu'il faut prendre... Vous savez, l'histoire qu'un de nos pères racontait, c'était à Genève. C'était donc un bon lieu. Il y avait des affiches partout, « Recherchez le criminel ».« Recherchez l'homme ». Puis un brave type arrive, il dit au père, j'ai besoin de vous voir et de vous parler sérieusement. Vous ne me connaissez pas, moi non plus, mais je cherche quelqu'un qui ne me connaît pas mais qui est prêtre. Parce que voilà ce que je suis. Il arrache sa perruque, il arrache son... Oui, on dit, oh. La figure de... Ah, c'est vous, le criminel. C'est arrivé vraiment, c'est pas de la blague. Vous êtes le criminel qu'on cherche. Oui, je suis le criminel qu'on cherche. Et je vous dis qui je suis, parce que autrement je ne pourrais pas me confesser. Je suis le criminel qu'on cherche, et je suis entre vos mains. Vous pouvez aller avertir les choses, mais je dis qui je suis. Alors, il a dit, remettez vite votre perruque, remettez. Si jamais quelqu'un... Oui, maintenant je peux, je remets ma perruque. Vous voyez, vous ne me reconnaissez pas. L'art, facilement, varifie la place des réalités individuelles pour donner un personnage totalement différent. C'est très joli, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup les choses singulières. L'artiste aime ça. Les caricatures, c'est comme ça. On regarde un petit détail. C'est juste l'ennemi de l'universel, la caricature. C'est l'artiste, du reste. L'artiste est très ennemi de l'universel. L'universel, ça n'intéresse pas du tout. C'est l'unité concrète qui l'intéresse. Dans un paysage, il saisira tout de suite le caractère particulier. Et c'est la caractéristique du grand artiste. Un paysage d'automne dans une forêt, qu'est-ce qui caractérise ça? C'est une note singulière mise en pleine lumière par rapport aux autres. Et vous pouvez, à partir de là, montrer par ce singulier tout ce qu'il est. L'unité d'un paysage. L'unité d'une figure, d'une physionomie, elle est faite d'harmonie. Et puis, en plus, quelque chose qui unifie tout. Alors que l'harmonie n'unifie pas tout. Il faut quelque chose de plus. Et c'est ce quelque chose de plus qui fait l'un. L'être singulier est un. Alors, qu'est-ce que c'est l'un, propriété de l'être? C'est l'être qui est en acte, pleinement achevé, pleinement actué. Parce qu'étant pleinement actué, il n'y a plus de potentialité en lui. La potentialité est source de division. Donc, de séparation, de multiplicité. Donc, l'un, en réalité, se fonde sur l'être en acte. Il y a bien une unité formelle qui vient de la substance, mais elle est cachée, celle-là. L'unité visible vient toujours de l'être en acte et exprime dans l'être en acte d'être non divisible. Le divisible étant une capacité à la multiplicité. Et donc un être en acte est victorieux de la multiplicité parce qu'il est en acte. Alors, vous voyez cette chose très curieuse pour l'un. Il me séduit. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est mon intelligence qui nie, c'est la négation, qui met en lumière ce que c'est que l'un. Et c'est cela qui montre que l'un n'est pas premier. L'être est intelligible par lui-même. L'être en tant qu'être, en tant qu'un acte, est intelligible par lui-même. Et c'est pour ça que le jugement d'existence, ceci est ce qu'il y a de plus simple. il est intelligible par lui-même, il est acte par lui-même. L'acte est la fin de l'être. Ce en vue de quoi? Donc, c'est la chèvre. L'être par lui-même est acte. Mais l'être est un grâce. Il se manifeste comme un grâce à mon intelligence qui, regardant cette réalité, dit « elle n'est pas divisible ». L'un s'explicite par la négation de la divisibilité, la négation d'être capable d'être multiple. Donc, l'un n'est saisi que grâce à mon intelligence qui nie la divisibilité. C'est très curieux, cela. Et c'est très intéressant parce que ça montre que l'on dit ceci est un. Quand vous dites ceci est un, il y a à la fois affirmation et négation. Affirmation de l'être et négation non divisible. Ce qui est non divisible est un. Ce qui est divisible n'est pas parfaitement un parce qu'il peut être divisé. Tout ce qui en vous n'est pas parfaitement acte vous laisse dans l'indétermination. Et vous laissant dans l'indétermination donne toutes les possibilités de division. Oui. Les astuces du démon, c'est de maintenir en nous du divisible. Tout ce qui en nous est divisible fait que nous ne sommes pas un. Parce que nous pouvons être divisés. Et donc, ne plus avoir la force d'être un. C'est en ce sens-là que l'indétermination vous rend faible. L'indétermination vous met tout proche de la multiplicité. Et vous mettant tout proche de la multiplicité, vous affaiblit. Or, qu'est-ce qui va vous rendre un? C'est la finalité. Si je suis finalisé, toutes mes forces sont en vue de cette fin à acquérir. Et donc c'est cela qui met en moi l'indivision. L'un, c'est ce qui n'est pas divisible, donc indivisé. Cela fait comprendre pourquoi l'un est propriété de l'être. Propriété de l'être, c'est-à-dire qu'il y a l'intelligence négative qui vient qualifier l'être d'indivisible. Il n'est pas divisible. Il n'est pas capable d'être divisé. Il est indivisible. Oui, la négation fait partie de là. Et ça, Platon a très bien saisi ça dans le Timée. Le Timée est très intéressant parce que c'est tout un dialogue sur l'un et l'indivisible. Et j'avais toutes les possibilités dedans. Aristote ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que Aristote a vu que l'être est antérieur à l'un. Si si l'être est antérieur à l'un et que toute l'intelligibilité de l'un vient de l'être, il s'intéresse à l'être. Tandis que Platon, considérant que l'un est ultime, s'intéresse à l'un d'une façon toute spéciale, pour montrer que l'un est avant tout. Et quand on dit que l'un est premier, on met la négation, dans ce qu'il y a de premier. Je ne comprends une réalité qu'en la niant. Et c'est ce qu'on voit dans Hegel, c'est ce qu'on voit dans toute cette position de l'idéalisme. Il faut nier pour savoir. La négation est première pour connaître vraiment une réalité. Donc, au fond, vous voyez, ce qu'il y a de très curieux dans l'un, c'est que c'est l'application première où on voit est-ce que c'est l'être, est-ce que c'est l'un qui est premier. Si c'est l'être qui est premier, et pourquoi dites-vous que l'être est premier et non pas l'un? Puisque vous avez deux systèmes philosophiques très parfaits l'un et l'autre, Platon et Aristote. Comment se fait-il que Platon a eu beaucoup plus de succès qu'Aristote? Platon, tout le monde l'accepte. Aristote, très peu. C'est très curieux, ça, et c'est un fait. Pour Platon, l'un est avant l'être. Si vous faites ça, si vous mettez l'un avant l'être, qu'est-ce que vous mettez? La négation avant l'affirmation. Puisque l'un implique la négation du visible. Vous mettez donc que la négation de la divisibilité est première à l'intelligibilité de l'être. Et donc, vous vous enfermez dans une attitude subjective. Mettre l'un avant l'être, c'est considérer que la négation est première avant l'affirmation. Tandis que quand vous dites ceci est, vous mettez l'affirmation en premier lieu. Vous voyez ? Et c'est donc pour respecter la priorité de ce que dit Aristote sur Platon, il faut revenir à cette question : qu'est-ce qui est premier ? L'affirmation ou la négation ? Je suis capable de nier, je suis capable d'affirmer. Je ne dis pas qu'est-ce que vous aimez le plus. Parce que le suffrage universel, ce qu'on aime le plus, c'est nier. Vous aimez plus, vous aimez mieux nier qu'affirmer. Si vous êtes loyal avec vous-même, si vous faites un petit examen de conscience au point de vue philosophique, qu'est-ce que vous aimez le plus, nier ou affirmer? Spontanément, on dira, j'aime mieux nier. Pourquoi? Pourquoi vous aimez plus nier? Ah, parce que quand vous niez, vous vous affirmez. C'est très curieux de voir des intelligences qui s'éveillent et qui aiment énormément nier. On voit ça dans les réunions de tous les pères pour voter pour les frères. Il y a des frères qui ont sur eux négation première. Il y a des frères qui ont affirmation première. C'est très curieux. quand on veut y assister philosophiquement, du point de vue de la sagesse philosophique, de remarquer ça. Et on touche à quelque chose de très très profond. C'est pour ça que le problème de l'un et le problème de l'être touchent une erreur fondamentale. Mettre l'un avant l'être, c'est mettre la négation avant l'affirmation. Et mettre la négation avant l'affirmation, c'est très dangereux. Parce qu'au fond, si vous grandissez avec ça, vous n'affirmerez qu'une seule chose, ce qui vient de vous. Tout ce qui vient des autres, je le nie. Parce que dans la négation, le sujet qui nie se met devant l'objet. Il le nie. L'objet n'existe pas. Il le nie. Pierre n'est pas dans le café. Exemple de Sartre. Et donc la négation, c'est la présence que j'ai en moi. La présence réelle de Pierre, ça m'échappe. Tandis que dire « Pierre n'est pas dans le café », ah, c'est moi. Pierre n'a pas besoin d'exister pour que je dise « Pierre n'est pas dans le café ». La simple négation suffit à m'affirmer. Je m'affirme dans la négation. Oui. Dans la négation, vous vous affirmez, vous, comme sujet antérieur à l'objet. Alors, quand l'objet n'existe pas, c'est sûr, vous avez tout à fait raison de dire que vous êtes premier, puisque l'objet n'existe pas. Mais quand l'objet existe, vous n'avez pas le droit de vous affirmer comme niant l'objet. Et c'est en ce sens-là que je crois que la modernité, c'est mettre la négation avant l'affirmation. C'est ça qui est la modernité qui a commencé au XIVe siècle avec Occam. Occam est le premier théologien qui dit que la négation est avant l'affirmation. Vous voyez, c'est très intéressant que ce soit un théologien, parce que lorsqu'il s'agit de Dieu, saint Thomas nous dit que toute négation est plus certaine que toute affirmation. C'est plus sûr de dire « Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de matière » que dire « Dieu est sage ». Parce que tout ce qui me dépasse, tout ce qui est plus que moi, au-dessus de moi, les négations sont plus vraies que les affirmations. Les affirmations sont analogiques. Elles ne sont pas directes. La négation est directe. Alors on comprend très bien qu'un théologien qui n'est plus vraiment théologien, c'est-à-dire qui confond l'intelligence et la foi, qui les bloque ensemble, arrive à dire que la négation est première. Elle est vraie lorsqu'il s'agit de Dieu, elle n'est pas vraie lorsqu'il s'agit de ma vie courante et de ma vie philosophique. Oui. Donc il y a là quelque chose qu'on doit être très attentif. Est-ce que pour nous, la négation est avant l'affirmation ? C'est une prise de conscience de ce qu'on est qui est très importante. Une prise de conscience de ce qu'est notre pensée philosophique. Est-ce que nous acceptons que l'affirmation est première ? ceci est. Alors que dans tout système phénoménologique idéaliste, la négation est première. La négation joue un rôle très important. Quand je dis qu'elle est première, c'est-à-dire qu'on la retrouve partout. Puisqu'elle est première, on la retrouve partout, elle est présente partout. Et toutes mes affirmations se font en fonction de la négation. Quand je dis « ceci est un », il y a entre « ceci » et « un », il y a la négation qui me permet de dire qu'il est un, parce qu'il est non divisible, il est indivisé. Tandis que quand je dis « ceci est », il n'y a rien entre deux, c'est la réalité qui se présente. L'un ne se dévoile que par la négation. L'un ne se dévoile, ne se manifeste que par la négation. Il ne se dévoile pas par lui-même. C'est la faiblesse de l'un. Le multiple se dévoile par lui-même. C'est sûr. Nous avons une connaturalité pour le multiple qui est très, très vraie. Tandis que l'un, nous ne pouvons l'affirmer que grâce à la négation. Et c'est, je crois, ça qui est très important à voir dans l'étude de l'un, propriété de l'être. Vous voyez, l'un universel, l'un de raison, n'implique pas la négation. L'un propriété de l'être implique la négation. Pourquoi l'un universel, il se dévoile directement par ce que vous produisez par l'abstraction. C'est l'universel. D'où l'un universel a une séduction sur moi plus forte que l'un propriété de l'être. Parce qu'il est plus immédiatement proche. Or, la séduction, c'est toujours en raison de la proximité. Toujours. Ce qui est lointain ne séduit pas et réclame qu'on s'approche. La séduction, c'est quelque chose d'immédiat. Et c'est pour ça que si on reste dans l'universel, les séductions des systèmes faux sont beaucoup plus fortes pour nous. Quand on a bien vraiment compris que l'être est antérieur à l'un, vous avez la séduction de l'être. C'est la seule qui est permise. Que votre intelligence soit séduite par l'être, c'est normal, c'est votre bien. Et c'est la seule séduction qui est permise. Et en réalité, l'être ne séduit pas, il détermine l'intelligence. C'est l'être qui est la détermination principale de l'intelligence. Donc l'être, au sens propre, ne séduit pas. Il séduit quand il se transforme en forme. Le beau. Alors il séduit. Mais ce n'est plus l'être. et c'est très particulier à l'être, c'est de ne pas séduire, de déterminer et d'actuer. Et l'être détermine et actue. Et il nous fait comprendre la différence entre la détermination et l'actuation. Une différence capitale, cause formelle, cause finale. Et l'être porte en lui cela. Ce qui est comme être détermine et actue. Il détermine en fonction de ce qu'est cette réalité et il actue en raison de la finalité présente dans cette réalité. C'est la fin. La fin termine. Tandis qu'au contraire, l'aspect substantiel, la fin termine et l'aspect substantiel détermine. Voyez donc que cette étude de l'être propriété, cette étude de l'un propriété de l'être est quelque chose de capital. Je dirais, au point de vue hygiène de mon intelligence, au point de vue de mon intelligence qui peut avancer, c'est capital. L'être un, propriété de l'être. Ça vient ensuite, ça vient en second lieu pour caractériser l'être. L'être est un. Donc l'être est capable de se servir de la négation. L'intelligence est capable de se servir de la négation pour affirmer la propriété de la propriété de l'être, de ce qui est. Il y a là une réflexion extrêmement curieuse et très intéressante, mais difficile. Vous voyez ? Voir comment la négation est bonne lorsqu'elle est seconde. Et le langage me montre bien cela. Je dis ceci est, ceci n'est pas. La négation est plus complexe que l'affirmation. L'affirmation est simple. Mais on aime les choses complexes. On est à l'aise dans les choses complexes. On analyse ce qui est complexe. Tandis que ce qui est simple ne peut pas être analysé. Alors ça échappe. On le saisit ou on l'ignore. Ça nous échappe. Il faut beaucoup d'humilité.